Il y a eu des procès qui sont souvent assez ridicules parce qu'en fait, ils n'ont rien à reprocher. Donc, ils essaient de trouver des choses. Et 8 ans de procès, avec, ils ont tout essayé. Ils ont essayé l'incitation à la haine parce qu'il y avait des références à la bataille de Poitiers. Donc, notre histoire devient une incitation à la haine. L'activisme spectaculaire aujourd'hui est difficile parce qu'on se dit que si c'est trop réussi, en gros, à un moment donné, le pouvoir politique qui est gêné va réprimer et va dissoudre. Gagner, je dirais, gagner électoralement, c'est 10% du problème qu'on va affronter.
Merveilleux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes lanceur d'alerte, engagé depuis très longtemps dans la cause identitaire et vous faites partie de toutes ces voix bâillonnées, censurées. Vous êtes d'ailleurs dans notre top 30 de ces voix bâillonnées qui paraissent dans notre dernier magazine Censure, la totation totalitaire. Alors Damien Rieu, on va justement revenir sur votre parcours, sur toutes ces mesures de censure qui ont été utilisées contre vous. Peut-être si vous pouvez commencer à nous raconter depuis quand est-ce que ces différentes discriminations ont pu avoir lieu.
Je crois que la première fois que j'ai vraiment subi une discrimination politique, c'était après l'organisation de l'occupation du chantier, du toit du chantier de la Grande Mosquée de Poitiers en 2012. Et à l'époque, j'étais en alternance dans une maison d'édition où tout se passait très bien, j'avais des félicitations, etc. Et donc j'ai fait cette action qui avait été très très médiatisée à l'époque, qui avait un retentissement international. Et 10 jours plus tard, j'ai été remercié en disant que ça se passait mal, voilà, alors que j'avais les preuves juste avant des félicitations de la directrice. Et donc j'étais renvoyé de mon alternance, ce qui est assez grave. Et l'école également en a profité pour me renvoyer en disant « Ah, t'as été renvoyé de ton alternance, ah ben, on va aussi te renvoyer de l'école parce que, voilà, parce que c'est grave. » Et ils se sont cachés un peu derrière ça pour ne pas assumer que c'était un renvoi politique parce qu'ils étaient gênés. À l'époque, je faisais des reportages sur des émissions à forte audience, j'avais fait envoyé spécial, M6, enquête exclusive, etc. Et bon, ils ne pouvaient pas le faire directement. Et donc là, ils ont utilisé ce prétexte du renvoi de mon alternance. Donc voilà, ça c'était il y a 15 ans déjà.
Revenons peut-être sur cette question des réseaux sociaux. Parce qu'en tant que lanceur d'alerte, c'est votre outil de travail finalement. C'est ce qui vous fait vivre au quotidien. Comment est-ce que vous faites et peut-être nous expliquer aussi en quoi c'est pernicieux, cette question de la censure des réseaux sociaux. Parce que vous avez des comptes à beaucoup d'abonnés qui retombent à zéro. Donc il y a toute une dynamique à relancer, etc.
Moi, mon capital d'abonnés, il est essentiellement sur X. Et donc, on a la chance depuis quelques années que X préserve à peu près la liberté d'expression, même si des fois, on ne comprend pas. Il y a toujours des comptes qui sont censurés, des posts qui sont cachés, des viralités qui sont diminuées de manière algorithmique. Donc, c'est pas très clair. Mais bon, on va dire que ça tient. Donc, moi, l'essentiel est là-bas. Après, j'ai fait une chaîne Telegram parce que Telegram ne censure pas, ou alors il faut vraiment... vraiment des comptes qui font des choses graves. Donc moi, je demande aux gens de s'abonner sur Telegram parce qu'au moins, Telegram, ça ne disparaît pas. Et donc, voilà, je dois avoir 20 000 abonnés sur Telegram, qui est un peu le noyau dur de gens voilà, qui me suivent de plus près, je dirais. Et sinon, pour m'adapter, malheureusement, sur Facebook, j'ai tout perdu. Là, je sais, on me dit d'y revenir parce que ça se remet un peu à fonctionner, Facebook, parce qu'il y a aussi des périodes où ça ne marchait pas très bien. Mais j'ai du mal parce que ça prend du temps, il faut s'investir et après si on saute du jour au lendemain, donc voilà, donc là j'ai refait un Instagram il y a quelques mois et ce matin il ressaute, donc je vais voir, j'ai fait appel, sinon j'essaierai de les contacter, mais c'est pareil, si je me mets à faire des vidéos, du temps, il faut y passer voilà, pour grossir, pour retrouver sa visibilité et que du lendemain tout est saboté, c'est vrai que c'est un peu décourageant. Ouais.
Et quelles sont justement les raisons invoquées à chaque fois ?
Oh, il n'y a jamais de raison directe. Il n'y a jamais c'est détourné. Là, ce matin, c'était votre compte ne répond pas aux conditions d'utilisation. Donc, il ne précise pas exactement ce que j'ai dit. Mais je sais que j'étais un personnage interdit chez Meta pendant des années. Donc, peut-être qu'ils se sont réaperçus que j'avais fait un compte. Après, je sais qu'il peut aussi y avoir des signalements de masse d'extrême gauche. Là, on a en ce moment Mila qui subit cette censure sur Instagram avec même ses comptes professionnels, ce qui est vraiment difficile parce qu'elle essaie de s'en sortir et elle est rattrapée par la censure alors qu'elle a un compte professionnel de coaching, donc elle a même pas le droit de s'en sortir, de trouver du boulot par elle-même. On la rattrape, quoi. Et ça, c'est vraiment insupportable. C'est une persécution, c'est une discrimination politique. Donc après, on pourrait faire des procès, mais ça nous coûterait des milliers d'euros. Alors des fois, on en fait. Hein. Des fois, il y a des procédures qui ont été gagnées. Je crois que Meta, quand on les traîne devant les tribunaux, mais ça prend des mois et ça prend de l'argent. Ils ont fini par renoncer à de la censure. Mais on rentre dans des grosses, grosses procédures, quoi.
Sur cette question, finalement, des moyens, elle est fondamentale, parce qu'il y a une volonté d'assèchement derrière et d'épuisement. Par exemple, si on prend les nombreux procès que vous avez pu subir, c'est difficile à tenir au niveau financier. Comment est-ce que vous, justement, financez tous ces procès ?
Oui, alors ça, c'est une autre forme, c'est le harcèlement judiciaire, hein, c'est-à-dire qu'on dit des choses et l'adversaire nous attaque, soit pour gagner du temps, soit pour faire taire la révélation. Voilà, alors moi, j'ai toujours gagner mes procès soit en première, soit surtout en appel. Hein. Généralement, je perds en première instance et je gagne en appel. Donc j'en suis, je crois, à 14 victoires, où j'en ai un ou deux en cours où je fais appel et j'espère bien gagner en appel. Et oui, c'est une forme de harcèlement financier, parce que les procès, on n'est pas aux États-Unis, et quand on gagne un procès, on ne gagne pas d'argent. En fait, donc on a quand même dû payer son avocat entre-temps. Moi, les procès, ils m'empêchent aujourd'hui d'accéder à des postes au niveau professionnel parce que, voilà, forcément, on a des employeurs qui se disent « Ah, ben, il a été condamné quand même. » Alors moi, j'explique « Oui, ok, mais je vais gagner. J'ai gagné 14 fois, je vais gagner 15 fois, etc. » Mais c'est normal qu'il y ait des employeurs qui...
Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Il y a toujours cette suspicion.
Oui, voilà. Bah oui, c'est quelqu'un qui fait des problèmes. Il a plein de procès. Ouais. C'est forcément quelqu'un qui crée des problèmes, quoi. Donc là, ça me cause du tort au niveau professionnel. Et au niveau financier, bah, moi, j'ai la chance de... Je me suis organisé. Voilà, au bout du deux, troisième procès, je me suis dit, bah, soit je continue, soit j'arrête. Donc j'arrête de dire des choses. Si on dit des choses consensuelles, c'est sûr, on n'a pas de procès. Si on dit des choses qui piquent, bah là, on en a plus. Donc, soit j'arrête de dire des choses qui dérangent, soit je continue et je m'organise financièrement. Donc, j'ai eu des donateurs, des petits donateurs, des fois des grands donateurs. Maintenant, j'ai des associations qui me viennent en aide et qui prennent en charge mes frais judiciaires pour me soutenir. Donc, ça me permet d'être à peu près à l'équilibre, même si bah, régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, il faut faire un rappel, parce que les gens, ils oublient, parce qu'il y a plein de gens qui demandent, donc forcément, il faut de temps en temps rappeler, réexpliquer. Et voilà, aux États-Unis, je pense que quand on gagne un procès, on peut réclamer des indemnités. En France, si j'allais chercher les indemnités à chaque fois que je gagne un procès, mon avocat m'a dit, bah oui, mais ça va te coûter, tu vas gagner, je sais pas, 800 euros, et ça va t'en coûter 800 pour faire la procédure de déclenchement, voilà, parce que ça reste des petits procès, c'est pas des grandes affaires. Donc il me dit, bah, au final, tu vas perdre des mois, et ça va pas être rentable. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas eu cette politique de se faire rembourser, entre guillemets, quand on gagnait, ça vaut pas le coup. Donc voilà, j'arrive à l'équilibre. J'avais calculé, je pense qu'aujourd'hui, on est à 80-90 000 euros de frais de procédure, frais judiciaires, qu'évidemment, moi, j'aurais pas pu payer de ma poche. Et c'est pourquoi, heureusement, et je les remercie d'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, tous ceux qui m'ont soutenu depuis des années. Hein. Voilà, et sans eux, j'aurais rien pu faire. Il y a aussi des gens qui m'ont aidé pour trouver du boulot. Voilà, quand c'était difficile. Donc il y a une solidarité qui permet, en fait, qui permet de continuer le combat, qui nous rend, je dirais pas invincible, mais en tout cas très fort. Et voilà, jusqu'à présent, je continue. Il y a des fois où j'hésite un peu. Je me dis, j'aimerais bien arrêter avec les procès, là. Je sais que là, par exemple, je crois qu'il ne m'en reste plus que deux. J'ai bien envie que ce soit les deux derniers pour passer à autre chose, à ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, essayer de, voilà, d'avoir des boulots auxquels je ne peux pas accéder aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est les deux derniers. J'espère qu'à force que je les gagne, les gens vont plus hésiter à m'en faire en se disant « Ah ouais, ils gagnent toujours et tout ». Donc voilà, mais on continue grâce au soutien de tout le monde.
Est-ce qu'il y a des procès qui vous ont particulièrement marqué, peut-être dans l'absurdité du...
Le procès pour, pour l'organisation de cette opération totalement pacifique. On avait... vous en souvenez peut-être pas, parce que ça remonte, 2012. Mais on avait occupé le toit du chantier de la Grande Mosquée de Poitiers, avec Génération Identitaire, pour le lancement de ce mouvement, qui est une mosquée frériste, dont le recteur Boubacar El Hadja Mor est aujourd'hui poursuivi pour financement du terrorisme. Voilà. Et c'est un des leaders des frères musulmans en France. Voilà. Et donc ils avaient fait une gigantesque mosquée, je crois qu'elle est toujours en chantier, parce qu'il y a eu, vous savez, à chaque fois qu'il y a une construction de mosquée, des histoires de détournement, il n'y a plus d'argent, enfin bon, bref. Plein d'histoires, avec un minaret géant de 36 mètres. Et donc, nous, on avait occupé ça pendant une matinée, on n'avait rien dégradé, on était repartis, Et 8 ans de procès, ils ont tout essayé. Ils ont essayé l'incitation à la haine, parce qu'il y avait des références à la bataille de Poitiers, donc notre histoire devient une incitation à la haine. Ils avaient dit qu'on avait déplacé des tapis de prière, mais c'était un chantier en fait, donc ils n'étaient pas censés avoir des tapis de prière, seulement ils occupaient en fait le chantier, ils s'en servaient de salle de prière clandestine en gros. Donc oui, on a déplacé des tapis de prière, et ils essayaient de dire que c'était de la dégradation. Et puis finalement, les trucs sont tombés les uns après les autres et ils n'ont pas réussi à me condamner. Mais c'est 8 ans de procès, c'est un appel, une condamnation. J'ai été privé de mes droits civiques pendant des années et des années. Donc c'est infamant. Il y avait des dizaines de milliers d'euros d'amende que finalement on n'a pas payé parce qu'on a fini par gagner. Mais tu te dis, si je perds, comment je vais payer? Et puis oui, la privation des droits civiques, c'est assez terrible. C'est quelque chose, je sais pas, on se dit c'est pour les meurtriers, les gens qui ont fait des choses très très graves. Et on a eu ça pendant des années. Et même si tu gagnes à la fin, pendant une certaine période, tu as été privé, tu ne peux pas te présenter aux élections. Je crois que la responsabilité parentale peut être mise en cause. Donc c'est infamant. Voilà, après, il y a eu des procès qui sont souvent assez ridicules parce qu'en fait, ils n'ont rien à reprocher. Donc ils essaient de trouver des choses. Et par exemple, quand j'avais organisé l'opération dans le col de l'Échelle, donc entre la France et l'Italie, c'est un col par là où passent les migrants à pied, et on avait créé une fausse frontière avec... du matériel, des fausses barrières, on a loué des hélicoptères, et puis on a fait des grandes banderoles, etc., pendant un week-end. Et donc, pour cette opération, ils n'ont rien trouvé, parce qu'on n'a rien dégradé, c'était pas illégal, évidemment. Donc, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont essayé de nous avoir sur usurpation de la fonction de gendarme, parce que nos vestes avaient la même couleur que celle des gendarmes, qui est un bleu électrique. Et donc, ils disaient, vous avez voulu vous faire passer pour des gendarmes, c'est interdit, pour des douaniers, etc. Donc, on vous poursuit là-dessus. Bon, ils avaient trouvé que ça. Il n'y avait rien d'autre. Et finalement, on a gagné. Ça a fini par tomber parce que c'était ridicule. Mais voilà ce qu'ils avaient essayé de faire. Donc, souvent, c'est comme ça. Après, là, il y a des histoires de diffamation, des histoires où il faut prouver ses dires. Donc moi, je tout est sourcé. À chaque fois que j'attaque quelqu'un, je dénonce quelque chose, donc je finis par gagner. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile en première instance de perdre parce qu'on a un juge très politisé, parce que il y a des fois où même je pensais tellement gagner que une fois, je suis pas allé me défendre, finalement j'ai perdu, donc faut que je retourne en appel et tout. Mais c'est souvent ridicule et heureusement, pour l'instant, je ne me plains pas, je finis par gagner. Voilà.
Une histoire qui avait peut-être marqué nos auditeurs, c'est le litige avec Karim Benzema.
Oui, c'est vrai.
Oui, on revient sur cette histoire.
Alors, Karim Benzema, l'histoire, c'est que lors de la décapitation de Samuel Paty, il va liker une publication sur Instagram d'un sportif tchétchène qui justifie la décapitation en disant que la France est un pays islamophobe. Et donc, c'était très grave. Il est suivi par des millions de jeunes, il est très influent. C'est un des sportifs et des stars les plus influentes. Et en likant cette publication, il dit à tous ces jeunes qui le suivent, qui sont souvent d'origine arabo-musulmane, qu'en gros, cette décapitation, elle a un contexte et une certaine justification. C'est gravissime. Il a un petit peu perdu en accès médiatique, et il a dû perdre des sponsors, etc. après ça, mais il n'a pas été banni de la sphère publique comme il aurait dû l'être. Il aurait dû plus remettre les pieds en France, être une honte nationale. Mais c'était tellement une star que les médias, il y a une certaine complaisance avec lui. Il y a un certain fatalisme en se disant.
Contre Goliath.
Et oui, et donc moi, j'ai dénoncé ça. Et pour me faire taire, il m'a effectivement traîné au tribunal. Il a perdu, évidemment, parce que tout ce que je disais était sourcé. Et il a dit « ouais, je vais faire appel » et tout. Il n'a jamais fait appel, donc j'ai fini par gagner. Et c'est sûr que c'est une belle victoire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, on va dire... Alors, je fais attention à mes propos depuis pour ne pas me prendre des procès, mais très ambigu sur cette question islamique. Et qui fait du prosélytisme, voilà, et qui est dangereux. Et aujourd'hui, on peut dire, ah bah Damien a gagné le procès contre lui, ce qu'il disait était vrai, donc Karim Benzema n'est pas clair, voilà. Donc je pense que ça a servi, et j'espère que je l'ai un peu éloigné de la sphère publique, quoi.
Quand vous parliez de l'opération au col de l'échelle et de la banderole sur le toit de la mosquée, c'était des opérations donc organisées par le mouvement Génération Identitaire, qui a été dissous il y a quelques années. Vous étiez à une époque porte-parole de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'était Génération Identitaire, quelles étaient leurs actions et finalement ce qui a mené à cette dissolution?
Génération Identitaire donc, s'est créée en 2012, à un moment où François Hollande vient de prendre le pouvoir, et l'objectif c'est créer un mouvement de jeunesse, d'opposition un peu à François Hollande, qui rassemble, qui rassemble la droite et qui fait des actions sur des thématiques. En 2012, personne, pas grand monde, ne parlait d'islam, d'islamisation et d'islamisme. Il n'y avait pas eu les attentats. Il y avait à peine eu Mohamed Merah, mais on pensait que c'était un acte isolé. Et je peux vous dire qu'à l'époque, que ce soit dans mon entourage ou dans l'opinion publique, la question de l'islam était tout à fait secondaire, voire même méprisée par certains militants de la droite nationale qui disent voilà, qu'il y avait d'autres sujets, vous êtes obsédé par cette question, c'est pas important, etc. Et moi, je savais déjà à l'époque que c'était important par rapport à mon parcours personnel. J'avais vu cet islam-là progresser à une vitesse folle. J'avais compris, enfin les identitaires avaient à l'époque compris un peu avant tout le monde. Il y avait que peut-être Philippe de Villiers qui en parlait avant, un peu Jean-Marie Le Pen, mais il n'y avait pas grand monde en tout cas, c'était très, très marginal. Et donc on avait créé ce mouvement-là, un mouvement d'opposition à la gauche, à François Hollande, et qui menait des actions spectaculaires. Alors en fait, notre modèle, c'était Greenpeace. D'ailleurs, Greenpeace ne s'était jamais présenté à des élections, et pourtant Greenpeace avait réussi à diaboliser le nucléaire. Il avait réussi donc finalement à influer sur la politique d'État, puisque François Hollande va fermer des centrales nucléaires sous pression du narratif de Greenpeace, qui est un mensonge, qui est une diabolisation du nucléaire, etc. Et nous, on s'est dit, bah voilà, on va reprendre leurs méthodes d'action, qui sont des méthodes d'interpellation médiatique spectaculaires, c'est-à-dire mettre des banderoles dans des endroits, faire des choses incroyables, créer du visuel, créer du sensationnel. À l'époque, il y avait aussi les Femen hein, qui faisaient beaucoup ça. Et donc, on s'est inspiré de ces deux mouvements, et en se disant, bah voilà, on fait des choses légales, borderline, un peu spectaculaires, mais voilà, toujours pacifiques, et on fait passer des messages avec des banderoles, et les médias vont nous prendre en photo, ils vont être obligés de relayer nos messages. Et à l'époque, personne ne faisait ça en France, en Europe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, il y a des groupes comme Nemesis qui font ça toutes les semaines, par exemple. Mais à l'époque, voilà, c'était tout nouveau dans la sphère, et donc on a un peu révolutionné la culture militante de la droite nationale, qui était dans un militantisme peut-être plus classique, soit électoral, soit, je sais pas, des conférences ou des choses plus banales. Et nous, on est parti dans le spectaculaire, ça a très très bien marché pendant des années, sauf que pour Gérald Darmanin, c'était une humiliation. Parce qu'en fait, on a réussi à montrer que symboliquement, des gamins pouvaient tenir une frontière, la frontière de la France, et que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'y arrivait pas. Et donc, au bout de la troisième, quatrième humiliation, il a décidé de persécuter Génération Identitaire qu'il avait humilié. Et alors, j'y étais plus à l'époque, mais après, il y a eu toute une procédure de dissolution, etc., où ils ont prétexté, alors que c'est un mouvement qui faisait que des actions totalement pacifiques et médiatiques. Mais voilà, au Conseil des ministres, ils ont réussi à le dissoudre. Donc aujourd'hui, c'est difficile. Ça fait un peu un précédent. Donc voilà, donc il y a les filles de Némésis qui arrivent à faire. Mais l'activisme spectaculaire aujourd'hui est difficile, parce qu'on se dit que si c'est trop réussi, en gros, à un moment donné, le pouvoir politique qui est gêné va réprimer et va dissoudre.
Alors, quelles étaient les raisons invoquées par Gérald Darmanin pour dissoudre Génération Identitaire ?
Alors, vu que j'étais plus à l'époque, j'ai pas vraiment tout suivi, mais c'était des raisons bidons, manipulées. Il prenait des trucs anecdotes, il disait « Ah oui, mais là, tel militant, il a fait une connerie. » Oui, d'accord, sur des centaines de militants, un jour, il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés, etc. Mais le mouvement a toujours fait des actions pacifiques, etc. Donc c'était du prétexte. Voilà, il disait, j'en sais rien, que ça incitait à être contre l'immigration, ça incitait à la haine, voilà, tous ces trucs qui font que derrière cette accusation d'incitation à la haine, on peut mettre finalement la critique de l'immigration. Donc ça peut aller très loin, vu que c'est un objet qui est très très flou juridiquement. Ça peut être à l'appréciation du juge, et si le juge a envie de dire que c'est de la haine, il vous dira que c'est de la haine. Et comment vous voulez dire que c'est pas de la haine? Voilà, il n'y a aucune haine contre les personnes, on dénonce un phénomène. Il n'y a pas d'incitation à la haine quand les militants de Greenpeace, contre les ingénieurs nucléaires, ils attaquent le nucléaire, ils dénoncent le nucléaire. Personne ne dit c'est l'incitation à la haine contre les ingénieurs nucléaires. Ben voilà, nous, il y a l'incitation à la haine si on dénonce l'immigration et ses conséquences. Donc il faut utiliser les bons termes, il faut faire attention. Ça limite les risques, mais c'est vrai que c'est pas toujours 100%.
Comment est-ce que vous analysez la dynamique d'évolution, si je puis dire, du militantisme à droite? Ce qu'on voit par exemple depuis 2012 avec la Manif pour tous, une explosion de la dynamique. Génération Identitaire s'est fait justement, comme vous l'avez dit, sous le mandat de François Hollande. Et depuis, il y a plusieurs groupes qui se sont créés depuis la dissolution. Je pense aux Natifs, à Paris Fierté et à d'autres. Collectif Némésis, vous en parliez. Donc comment est-ce que vous voyez cette dynamique? Malgré la censure, on sent quand même qu'il y a une volonté toujours de s'exprimer.
La situation, elle a énormément changé. Parce qu'à l'époque, en 2012, on n'avait pas de sphère médiatique très puissante. On avait des petits médias. Mais aujourd'hui, il y a des grands médias qui ont énormément d'audience, des centaines de milliers d'abonnés. Et donc, je dirais que le rôle pour lancer des alertes est moins, aujourd'hui, c'est moins utile. À l'époque, c'est vraiment personne ne parlait d'un sujet, donc on était obligé de secouer un peu la machine pour que ça parle du sujet. Aujourd'hui, sur certaines chaînes, certaines radios, ça parle des sujets importants, d'immigration, d'insécurité. Donc, je dirais que ça n'a pas la même fonction aujourd'hui. Ça sert, voilà, je pense qu'il faut toujours des mouvements de jeunesse parce que c'est important que les jeunes fassent des choses constructives, des choses qui ne les emmènent pas dans des impasses politiques, des choses qui servent à rien, des choses qui vont leur créer des problèmes pour rien, qui sont même contre-productives, inutiles. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des mouvements de jeunesse sains, qui élèvent les jeunes, qui les forment, qui leur donnent des idées qui vont dans le bon sens. Qui les structure, qui leur donne des compétences quasi professionnelles. Moi, j'ai tout appris par le militantisme et aujourd'hui, je peux en faire mon métier. Donc, c'est important qu'il y ait des mouvements comme ça, qu'il y ait des mouvements aussi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est moins lancer des alertes, parce que comme je disais, il y a des médias. Il y a aujourd'hui votre média, Frontières, qui fait ce travail-là et qui fait sûrement mieux parce qu'il y a des moyens d'investigation, parce qu'il y a des moyens après de faire vivre l'alerte ou la révélation par différents supports. Donc voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui serait important, ce qui est important de faire, il faut continuer la métapolitique, le travail culturel, même si j'ai l'impression qu'on est en train de le gagner contre le wokisme. Voilà, il y a plein de travail métapolitique à faire. Mais ce qui manque, je dirais, c'est l'aspect communauté. C'est important aujourd'hui qu'un jeune Français de souche qui est isolé parce qu'il est minoritaire dans sa classe, dans son quartier, parce qu'il est persécuté dans l'insécurité, dans les transports, eh bien, trouve une communauté, des amis, des gens qui pensent comme lui, des gens qui vont l'aider à sortir peut-être de sa situation difficile, qui vont l'emmener dans une bonne direction, une direction saine politiquement, qui vont l'aider à se former, peut-être à faire du sport, à apprendre à se défendre, à ne pas baisser les yeux, voilà, à ne pas se laisser faire dans la rue quand il se fait systématiquement agresser, avoir des amis sur qui compter en cas de problème. Ça, je pense que l'aspect communautaire, il est très important. Et il va l'être de plus en plus dans les années qui viennent. Plus la situation se dégrade, moins on peut compter sur l'État pour assurer la sécurité, plus il faut compter sur soi-même. Et dans le soi-même, quand on est seul, quand on est un individu isolé, on est extrêmement fragile. Et en face, généralement, les personnes qui viennent nous agresser ne sont pas seules. Et donc, il faut, pour leur répondre, soit pour les dissuader, soit pour se défendre, il faut avoir aussi ses amis, sa communauté. Voilà. Et puis, contre la persécution politique, il faut une communauté qui vient en aide, qui va t'aider à trouver du travail, un boulot si tu as été persécuté par tes idées, une maison, etc. Donc tout ça, c'est important. Et si, je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui viennent, j'espère qu'on va trouver un débouché électoral et qu'on va avoir un homme ou une femme politique qui va pouvoir résoudre notre situation. Mais si ça n'arrive pas, que la situation continue de se dégrader, il n'y aura que les communautés, que les gens qui sont en communauté, qui survivront dans un environnement hostile. C'est ce que les leçons de l'histoire, c'est ce qui se passe dans les autres pays, nous enseignent. Donc il faut préparer ça. Il faut préparer la solution du meilleur, qui est la victoire électorale et la résolution du problème de l'insécurité et de l'immigration et de l'islamisme par les urnes. Et il faut préparer une possible défaite en créant dès aujourd'hui des communautés qui permettent d'aider les familles aussi. C'est très important. Aujourd'hui, une famille, on a des valeurs des droites, on fonde une famille, mais on se retrouve un petit peu seul. C'est important de s'aider entre familles. Donc il y a des gens qui ont des projets de, communautaire, je dirais géographique, mais c'est assez difficile parce que ça demande des moyens, ça peut être aussi persécuté, ça peut être mal vu. Donc ça se fait en fait, ce rassemblement communautaire se fait en fait par le prix de l'immobilier, des quartiers qui sont préservés, ça se fait de manière implicite, les gens de droite qui veulent vivre en sécurité loin de l'immigration se regroupent, si vous voulez, par le prix de l'immobilier. En fait, donc ça se fait, ça existe par les stratégies de contournement, par les écoles privées pour sortir son enfant de l'enfer du public. Mais par exemple, fonder des écoles, c'est fondamental aujourd'hui, c'est même prioritaire. Il faut sortir son enfant, il ne faut pas laisser son enfant en minorité dans une classe, parce qu'il va vivre un enfer, il va être marqué à tout jamais, et ça va détruire sa scolarité, ça va détruire ses performances scolaires, parce que le niveau de la classe va être tiré vers le bas, donc votre enfant va être aussi tiré vers le bas. Donc il faut le sortir de ça, donc il faut des écoles, je dirais, avec l'enseignement fondamental, écoles de droite, quoi, si on peut dire, et avec une population dans l'école qui n'est pas hostile et qui va être persécutée, parce que c'est le seul non-musulman ou le seul blanc de sa classe. Donc créer des écoles, c'est des gros chantiers, c'est des chantiers, je ne sais pas si on peut appeler ça communautaire, mais éducatif, qui me semble absolument primordial pour demain, l'aspect communautaire est essentiel.
Ce qui est malheureux, c'est qu'on a tendance à avoir un clivage communautaire basé aussi sur les moyens, l'économie, parce que mettre ses enfants dans des écoles privées, parfois hors contrat, se préserver au niveau sécuritaire en se logeant d'une meilleure façon, tout ça demande un coût. Malheureusement, ce n'est pas abordable à tous les Français.
C'est tout à fait le problème. Aujourd'hui, je dirais que pour... par exemple, on reproche parfois à des gens, à des gens qui ont nos idées, et ils finissent par voter Macron à la fin. Et en fait, leur raisonnement à eux, c'est qu'ils se disent que leur manière de fuir l'insécurité, de fuir l'immigration, c'est leur pouvoir d'achat. Et ils ont plus confiance dans Macron pour défendre leur pouvoir d'achat, leur situation économique. Généralement, plus ils sont favorisés, plus ils votent Macron. Hein, c'est les chiffres qui le disent. Et donc, en fait, c'est une manière, ils ont nos idées. Mais ils ont peur, par exemple, d'une déstabilisation de l'économie si c'est la droite nationale qui arrive au pouvoir. Donc ils restent sur un logiciel centriste de pas de vague, de le truc tient un peu, pas de révolution sécuritaire, parce que eux, ils survivent grâce à la stabilité. Voilà. Et ils se disent, si je perds en pouvoir d'achat, que le pays part en guerre civile parce qu'il y a des émeutes, parce qu'il y a de la répression, parce qu'on se met à faire trop de sécurité, etc., la peur, ou le retraité, un profil sociologique où il se dit, je veux profiter de ma retraite sans que ça soit l'apocalypse, la guerre civile, ça sera pour les autres, hein, pour mes enfants, mes petits-enfants. Quoi. Mais il ne faut pas que ça soit résolu pendant que je suis à la retraite, parce que je suis fragile, je suis dépendant de l'État, je ne suis pas en forme physiquement. Donc voilà, donc il y a tous ces gens-là qui effectivement ont nos idées, font le diagnostic de la situation, mais pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas la résoudre, ce qui reporte le problème et empire le problème sur les générations suivantes, ce qui est totalement irresponsable, hein, évidemment. Mais c'est une manière de fuir. Le pouvoir d'achat est une manière de fuir. Aujourd'hui, si vous gagnez bien votre vie, vous pouvez être dans un quartier préservé, vous n'avez pas besoin de prendre les transports en commun, vous partez en vacances dans des zones qui sont préservées, le pouvoir d'achat vous protège de l'immigration. Et ce qui est très difficile, effectivement, c'est pour les classes populaires françaises de souche, qui, eux, n'ont pas les moyens de fuir cette immigration, donc se retrouvent soit marginalisés dans une France périphérique où il n'y a plus d'emploi, où c'est la crise, etc. Mais dans les grandes villes, par exemple, il n'y a plus moyen. Soit on a accès au HLM parce qu'on a des contacts dans la mairie de gauche, on correspond à des critères, mais généralement, vu qu'on gagne un petit peu mieux sa vie que la famille somalienne, on n'aura pas accès au HLM. Donc on est coincé dans les grandes villes. Aujourd'hui, fonder une famille quand on est un Gaulois, c'est faut être millionnaire à Paris. J'ai ce problème-là en ce moment, je cherche, l'équation est impossible, ça ne marche pas. Il faut être millionnaire ou alors faut partir. Et donc, c'est sûr que le pouvoir d'achat est un aspect essentiel de la survie. Et ça va être très difficile. C'est pour ça que, on peut se sauver soi-même si on a les moyens. Encore que c'est que temporaire, hein, quand on voit dans les pays...
– La répartition même des migrants sur l'ensemble du territoire, c'est difficile, même on se dit...
– Oui, voilà. Déjà, il y a la politique de répartition, il y a les lois SRU qui... on se dit, pourquoi la droite nationale a augmenté dans tel coin ? Parce qu'il y a encore de migrants, parce qu'il y a la loi SRU, donc il n'y avait pas de HLM, maintenant il y a des HLM. Donc c'est sûr qu'on est... L'immigration nous rattrape, en fait. Donc, les solutions de pouvoir d'achat, de fuite par le pouvoir d'achat, sont des solutions qui sont particulièrement temporaires. Sauf à être multimillionnaire et on trouvera toujours un endroit, une île, Monaco ou je sais pas où, pour s'enfuir. Hein. Mais c'est vrai que c'est des solutions temporaires et c'est pour ça que je pense que tous les gens qui ont les moyens doivent également soutenir ceux qui se battent politiquement, parce qu'à terme, il n'y aura plus d'endroit où fuir. Dans quel pays on va fuir ? Quel pays aujourd'hui en Occident est épargné par le problème ? Aucun pays. Donc quand même, si j'ai des énormes moyens, je vais aller aux États-Unis, c'est compliqué, ça bouge aussi, je vais aller en Grande-Bretagne ? Non, je peux aller en Belgique ? Non. Un peu la Suisse pour l'instant, mais une fois que tout le monde sera tombé autour, la Suisse finira par tomber. Donc c'est très difficile et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut se sauver soi-même, c'est important de sauver sa famille, etc. Mais il faut aussi penser collectif. Parce qu'on le voit dans les pays comme le Brésil, par exemple. Ceux qui ont les moyens vivent dans des ghettos, derrière des barbelés, avec des vigiles, mais il y a des kidnappings, ils ne peuvent plus sortir. C'est un enfer, quand même. Donc, ce n'est pas une solution.
Pour revenir peut-être sur le sujet de la censure et de la tentation totalitaire, comment est-ce que vous expliquez ces persécutions judiciaires, financières, médiatiques, sur les réseaux sociaux, sur tout, on va dire, les militants de droite en général, patriotes, identitaires, etc. Est-ce qu'il y a une forme peut-être d'état profond en France, de gauche, qui tient encore
C'est sûr que le politiquement correct ravage les entreprises. Hein. Il y a une grosse campagne, 2010, à partir de 2010, je dirais, surtout tout ce qui est la discrimination positive, donc discrimination négative pour les autres, discrimination positive pour les uns. Donc sur la question de l'emploi, toutes les politiques de diversité, en fait... Il s'est passé quoi ? Il y a eu des émeutes très graves et la société a répondu déstabilisée. Les idées de gauche ont répondu par ces émeutes en disant c'est parce qu'ils sont discriminés. Donc il y a eu toute une politique de mise en avant de la diversité qui pose parfois d'énormes problèmes, qui a fait avancer l'islamisation parce qu'on n'ose plus rien dire. Ah oui, mais c'est la diversité, il faut accepter, etc. Donc ça fait avancer l'islamisation dans les entreprises, à l'école, etc. Ça fait des quotas donc où aujourd'hui le français de souche peut être discriminé sur un poste parce qu'il faut que ce poste soit donné à quelqu'un issu de la diversité. Donc il y a eu tout ça. Il y a eu, je pense que tous les gens qui décident dans ces entreprises, on le sait pendant des années, c'est moins vrai aujourd'hui, mais plus les gens ont des postes élevés, plus les gens ont des revenus, plus généralement ils ont un logiciel centriste, voire de gauche, ils sont pour l'immigration, parce que la seule immigration qu'ils fréquentent, c'est l'immigration Bac+5, donc c'est sûr, l'immigration Bac+5, les ingénieurs et tout, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et quand le seul contact avec l'immigration, c'est soit des gens qu'on emploie, c'est des gens qui sont à notre service, et donc dans ce cas-là, ils ne posent pas trop de problèmes, soit c'est des gens exceptionnels, des scientifiques ou je ne sais pas quoi, donc on a un a priori positif de l'immigration, et donc on se dit que l'immigration n'est pas un problème, parce que moi ça se passe bien avec mon ami qui est ingénieur. Et donc ces élites-là, qui gouvernent ce politiquement correct, alors il y a le politiquement correct aussi médiatique, qui est très très fort, puisqu'on sait que 80% des journalistes votent à gauche, même si c'est aussi de moins en moins vrai, le politiquement correct par les professeurs, par l'éducation nationale, donc tout ce politiquement correct-là fait que quasiment toute la société était, jusqu'à quelques mois, quelques années, sous ce contrôle-là. Et il y a aussi la peur, c'est-à-dire que si l'entreprise ne te persécute pas, par exemple si le réseau social ne te ferme pas tes comptes, il va être accusé par des militants de gauche, d'extrême gauche, d'être complice, de te laisser propager tes idées. Donc il va être lui-même mis en accusation et les gens ont envie de garder leur statut social moral en disant « moi je suis propre, j'ai réprimé le méchant, j'ai réprimé le diable, je suis quelqu'un de bien ». Et surtout, je ne vais pas avoir de problème avec soit ma hiérarchie, soit des gens à l'extérieur qui vont faire pression. Et donc chacun se sauve. En vrai, hein, quasiment tout le monde pense comme nous. Mais il y a de la lâcheté et l'obligation d'être dans le conformisme soi-même. Donc même les gens qui pensent comme nous, et je l'ai régulièrement vu à toutes les étapes judiciaires, quand on rencontre des policiers, etc., les gens ils s'excusent. Ils disent je suis obligé, je fais mon travail, je vais pas perdre mon boulot, je suis d'accord avec toi, tu n'as rien à faire dans cette garde à vue, tu n'as rien à faire dans cette audition, tu n'as rien à faire dans ce procès. Mais j'ai même eu des juges que j'ai recroisés après qui m'ont dit des choses. Donc ils sont obligés, c'est le poids du conformisme qui vient essentiellement des élites, des médias et de ce qu'on pourrait appeler une sorte de système.
Et est-ce qu'en cas de victoire, peut-être, du camp national, est-ce qu'on peut espérer une purge de ce système ?
Alors le problème, c'est que la France n'a pas la culture de ce qu'on appelle le spoil system, hein, c'est-à-dire une sorte d'alternance. Il y a l'alternance des ministres, quand il y a un nouveau gouvernement, des ministres, du président, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, normalement, en tout cas aux États-Unis, il y a aussi l'alternance de tous les hauts postes. Donc c'est plusieurs milliers de postes de gens qui doivent s'en aller pour laisser la place à des gens qui vont piloter en fonction du résultat électoral et des idées qui sont arrivées en premier lieu. La France n'a pas cette culture-là. La France est totalement un État qui est totalement administré par les socialistes, le Parti socialiste. Donc c'est les juges, c'est les journalistes, mais toute l'administration, je veux dire, l'engagement dans l'administration d'État est quasiment un engagement de socialistes, en fait. Donc ils ont pris le contrôle de cet appareil d'État. Et ça va être très difficile de les chasser. Parce que à chaque fois qu'on remplace un socialiste par quelqu'un de droite, ils vont le persécuter, le dénoncer, crier dans tous les sens. Ils vont dire que c'est totalitaire. Ils vont dire alors qu'on veut juste rétablir l'équilibre. Le but n'est pas qu'il y ait forcément que des gens de droite dans à la tête des administrations, mais au moins que déjà les gens ont voté pour quelque chose, donc il faut que la politique s'accomplisse et il ne faut pas que les administrations soient des obstacles. Et elles vont en cas de prise de pouvoir tout faire. Il y en a qui vont démissionner, il y en a qui vont saboter, il y en a qui vont faire semblant. Ils vont faire de la résistance active et passive dans tous les sens. Et c'est ça qui va être très dur, c'est qu'on ait suffisamment d'effectifs pour les remplacer, qu'on puisse les sortir de là alors qu'ils vont être très très protégés. C'est le principal défi. Gagner électoralement, c'est 10% du problème qu'on va affronter. Il reste derrière 90%, c'est en faire quelque chose de cette victoire. Et ça, là-dessus, c'est la grande inconnue. On ne sait pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont sortir dans les administrations, qui vont se dire « Ah, mais j'ai toujours pensé ça, mais je me cachais, maintenant je vais y aller ». Ou alors, on peut se dire que ça va très mal se passer. Ce qu'il faut s'inspirer, c'est Reagan, hein, qui avait prévu tout un plan lors de sa prise de pouvoir, avant sa prise de pouvoir. Il a prévu tout un plan où, par exemple, ils ont été confrontés à la grève des aiguilleurs du ciel, hein, ce qui paralyse les États-Unis, qui n'ont pas de train, ils n'ont que des avions, donc ça a paralysé le pays. Et ils avaient prévu tout ça, et donc ils avaient remplacé les aiguilleurs du ciel par, je crois, des militaires, donc tout était prévu. Il faut qu'il y ait un plan de préparation au blocage de la France, il faut anticiper pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu et quand on est attaqué de tous les côtés sur les transports, je sais pas, les profs qui se mettent en grève, etc. Il faut qu'on trouve des solutions et qu'on prépare bien ça avant.
Et à l'inverse, en cas de victoire de la gauche radicale, quel avenir pour les lanceurs d'alerte ou...
Ah bah, je pense qu'on sera tout à fait persécutés. Hein. La gauche utilise, je dirais, la nazification de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est à droite de François Bayrou. Quoi. Voire même François Bayrou, déjà, c'est quand même le début du fascisme. Hein. Donc, à partir de là, elle s'autorise contre nous tout, comme elle s'autorise la violence physique, la marginalisation, la discrimination politique, parce que c'est au nom du bien, parce que c'est au nom de la morale, on peut tout faire contre les militants de droite. Voilà, et aujourd'hui, il y a une banalisation de la violence contre les militants de droite, ça passe, les procès, il y a des relax, médiatiquement, c'est très très peu suivi quand il y a quelqu'un de droite qui se fait agresser. Voilà, il y aura une répression. Donc là... Face à cette situation, bah, plusieurs choses. Il y en a qui prendront peut-être le chemin de l'exil, comme ça s'est fait dans les dictatures soviétiques, etc. Il y en a qui resteront ici. Il y aura des résistants de l'intérieur, des résistants de l'extérieur. Il faudra continuer. Mais ça peut aller très très loin, la répression. C'est déjà un niveau élevé, mais je crois qu'effectivement, s'ils sont aux manettes, ils nous mettront en prison sans trop sourciller, en disant, sous des prétextes, « Ah oui, vous avez... » Vous n'êtes pas assez de gauche, vous avez osé penser que l'immigration peut-être poserait problème, c'est de la haine raciale, c'est de l'incitation à la haine, on vous met derrière les barreaux avec la peine la plus sévère, donc je pense que ça finira comme ça. Heureusement, on est à une époque où, grâce à Internet, on peut plus facilement qu'auparavant résister, donc voilà, il faudra résister.
Peut-être pour conclure sur un message d'espoir, Damien Rieux, si vous avez un message à faire passer à des jeunes qui souhaiteraient peut-être s'exprimer, mais qui auraient peur de ce politiquement correct.
Alors j'ai l'impression quand même que la génération des vingtenaires, hein, ce qu'on appelle les zoomers, n'ont pas du tout de politiquement correct. On le voit notamment avec ce phénomène sur Instagram, où on a vraiment des jeunes très décomplexés. En fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que c'est des jeunes qui vivent dans une société qu'on ne connaît pas, nous, encore, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, mais une société quasi tribale, en fait. Et donc, chacun a sa communauté, dans la cour de récréation, dans l'école. Et en fait, alors que nous, on a vécu ça, on était déstabilisés, parce qu'on ne s'était jamais senti gaulois, français, blanc. Enfin, c'était des trucs qui n'existaient pas pour nous et qu'on a découvert au fur et à mesure de notre scolarité, à force d'être visé, à force d'être traité comme tel. On a fini par se sentir comme ça. Mais eux, ils ont déjà grandi avec ça. Et donc, ils sont déjà dans un logiciel où ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont gaulois et que les autres ne le sont pas, et que les relations sont déjà des relations de la société libanaise, communautaire. Hein. Voilà, toi, t'es ci, moi, je suis ça, on est différents. Ça blague là-dessus. Il peut y avoir des blagues toute la journée sur ce sujet. C'est parfois facteur de tension, de violence, etc. Mais ils sont déjà conscientisés. Ils ont une... ils ont pas de surmoi. Ils n'ont pas vécu, nous, toute la fin des années 2000, où on avait encore ce politiquement correct. Ils ont grandi dans des cours de récréation et dans des classes où il n'y avait pas de politiquement correct et où tout le monde s'insulte. Je le sais, ils le racontent dans le collège et lycée. Tout le monde fait des blagues racistes à tout le monde. Voilà. C'est le jeu, c'est un peu du second degré, c'est un peu vrai et tout, mais c'est devenu complètement banalisé, ce qui n'existait pas du tout à mon époque, personne, voilà. Et c'est devenu comment ? Donc en fait, c'est des jeunes qui ont grandi avec un autre logiciel, donc ils ont pas ça. Non, moi ce que je pourrais leur dire, c'est de s'engager en politique. Aujourd'hui, il y a énormément de débouchés, il y a des débouchés professionnels, on peut devenir journaliste de droite, avant ça n'existait pas, il y avait 5 journalistes de droite, aujourd'hui on peut devenir, voilà. On peut faire de la politique électorale parce que il y a des très bons résultats, donc il va y avoir probablement des mairies, des régions, des départements qui vont tomber, il y a beaucoup de députés, donc on peut aller faire de la politique de ce côté-là, il y a beaucoup plus de moyens, il y a 100 fois plus de moyens financiers que ce qu'il y avait il y a 15 ans. Aujourd'hui, on peut monter des projets, donc je dirais... ne pas avoir peur, continuez avec votre politiquement incorrect, et ce que je disais tout à l'heure, préparez-vous à vivre la terrible société tribale qui va arriver, la société communautaire, la société du tous contre tous, et la société qui va se replier sur elle-même, parce que c'est ce qu'on a observé, c'est un réflexe de survie de chacun. Donc chaque communauté va se replier sur elle-même, ne soyez pas celui qui est en dehors de sa communauté et qui est seul. Parce que si vous êtes dans une société communautaire seule, vous serez en danger. Donc préparez ça.